Bonsoir, bonsoir. On entame ce soir le troisième chapitre de ce cycle, donc le chapitre consacré à ce que devient la notion de temps après Aristote dans l'Antiquité. Et en fait, on va voir que ce devenir de la notion, c'est plutôt une perte de sens, d'abord des mots même de la définition d'Aristote, et ensuite une perte d'intérêt, en fait, pour chercher cette nature du temps, et une perte de la signification générale de ce qu'avait essayé de penser Aristote. Et cette perte, on la constate très vite, et même dans l'école même qu'a fondée Aristote, donc dans le lycée, parce que, en tout cas, si on en croit Simplicius, parce qu'on n'a pas de textes originaux, mais si on en croit Simplicius, les disciples immédiats d'Aristote, Théophraste et Eudème, ont repris sa conception sans faire de modification. Mais le troisième, qui s'appelle Straton de Lampsac, bon, je mets Straton, toujours d'après Simplicius, aurait énoncé une série d'objections contre cette définition et on l'aurait progressivement en fait abandonné, donc très tôt. Ces objections en fait concernent principalement deux expressions, celle de nombre, donc le terme de nombre dans la définition, et celle de antérieur et postérieur. Celle de nombre d'abord parce que toutes les objections que fait remarquer ou les difficultés, les problèmes qu'énonce Straton sont toutes liées au nombre nombrant, donc au nombre mathématique. Si on considère le temps comme un nombre nombrant, alors évidemment il s'ensuit une série de problèmes dans cette définition. Mais évidemment on avait vu à quel point Aristote avait bien souligné la différence entre nombre mathématique et nombre nombré qui est celui qui concerne le temps. Donc on trouve bizarre que ce successeur ne fasse pas cette distinction. Et sur la notion d'antérieur et postérieur, les objections qu'il énonce, c'est parce qu'il ne fait pas la différence entre l'antérieur et postérieur dans la grandeur et dans le temps. Par conséquent, il dit que la définition du temps est circulaire, puisqu'on utilise dans la définition le temps qui est le terme à définir. Donc c'est vraiment le propre d'une définition logiquement circulaire et donc non valide. Tout ça parce que, évidemment, si on dit antérieur et postérieur, c'est déjà quelque chose de temporellement déterminé, alors, effectivement, on utilise le temps dans la définition qui est censée le définir. Mais, comme on l'avait vu là aussi, Aristote avait bien pris la précaution de dire « Je parle de l'antérieur et postérieur d'abord dans la grandeur, ensuite dans le mouvement, et seulement par eux, on peut dire que le temps, à son tour, possède de l'antérieur et postérieur. » Donc tout ça était évitable et évité par lui. Donc c'est un peu étrange, cette critique. Et d'ailleurs, on peut se demander, puisqu'on n'a pas le texte original de Straton, si ce n'est pas une reconstitution qu'on a faite plus tard et qu'on lui a attribuée. Bon, ça reste toujours une possibilité. Les deux autres grands courants qui caractérisent la période philosophique juste après Aristote, donc on l'appelle la période hellénistique, donc période hellénistique, c'est cette période qui commence avec l'invasion de la Grèce par Philippe de Macédoine et qui se termine avec la conquête romaine. Donc on a à peu près deux siècles là. Donc durant lesquels les deux courants dominants, c'est le stoïcisme et l'épicurisme. Je n'ai pas besoin de les écrire. Stoïcisme et l'épicurisme, et puis bien sûr l'académie de Platon continue aussi. Le lycée continue, mais on a vu avec les déficiences, en tout cas dans la physique, que je viens de dire. En ce qui concerne les stoïciens, vous avez un tout petit extrait là, qui est issu de Simplicius, parce que malheureusement pour le stoïcisme ancien, on n'a pas de texte direct. Et d'après donc Simplicius, donc je vous rappelle qui est du 6e siècle de notre ère, ça fait une grande différence de temps entre les deux. D'après Simplicius donc, parmi les stoïciens, Zénon a dit que le temps est l'intervalle de tout mouvement, en général, et Chrysippe, l'intervalle du mouvement du monde. Alors donc les deux, ce qui est commun aux deux, c'est que le temps est devenu l'intervalle du mouvement. Donc on utilise désormais le terme diastema, que je vous avais déjà signalé, qui remplace le mot nombre, arithmos. Et très probablement parce que justement arithmos a suscité de l'ambiguïté. C'est un mot équivoque puisque on pourrait le confondre avec le nombre mathématique. Donc ça n'évoque pas tout de suite ce qu'Aristote avait voulu faire passer par cette notion. Mais en le remplaçant par intervalle, en fait, on crée d'autres problèmes, comme on va le voir dans la réfutation qui va en être produite un peu plus tard. Alors vous remarquez aussi que la définition de Chrysippe, elle est assez proche de celle de Platon, puisqu'on retrouve l'intervalle du mouvement du monde. Je vous rappelle, dans le Timée de Platon, le temps était uniquement la mesure du mouvement du ciel externe de la sphère du monde. Donc on retrouve quelque chose de hybride entre Platon et Aristote chez ce stoïcien. Mais en tout cas, on a perdu, vous voyez qu'on a perdu beaucoup par rapport à la définition d'Aristote, et on a une définition qui est en fait très facilement réfutable. On a perdu la notion d'antérieur et postérieur, qui était, on l'a vu, absolument indispensable pour comprendre la particularité du temps. Du moins, effectivement, en tenant compte du fait qu'on n'a pas beaucoup de témoignages directs, hein, que c'est un témoignage indirect, peut-être que leur conception était un peu plus riche, mais c'est tout ce qu'on a. Alors Épicure, donc, qui fonde l'autre école importante de cette période, lui ne cherche pas à donner une définition, mais au contraire, il dit qu'il ne faut pas essayer d'en donner, qu'il faut simplement concevoir le temps à partir de notre manière courante de l'utiliser. En fait, la manière familière de connaître le temps, donc cette manière qui n'est pas une connaissance scientifique ni précise, mais simplement habituelle, eh bien, ça nous suffit. Hein, et ça nous permet de mesurer, et donc ça suffit quant à l'usage. C'est ce qu'il exprime donc, dans le deuxième texte. Alors cette fois-ci, c'est un texte écrit par Épicure lui-même. Hein, la lettre à Hérodote, c'est une lettre vraiment qui a été écrite telle qu'elle par lui et que la tradition a conservée. Donc, il ne faut pas mener la recherche sur le temps de la même manière que sur les autres choses que nous cherchons dans un sujet. Qu'est-ce que ça veut dire les choses que nous cherchons dans un sujet? Ça veut dire simplement les propriétés des substances. Ah, donc vous avez encore, selon la distinction aristotélicienne, des substances qui sont sujets d'attributs. Donc sujet de propriété, comme par exemple cette table est une substance, un corps vivant est une substance, parce qu'on peut leur attribuer des tas de propriétés. Donc les choses que nous cherchons dans une substance, ce sont des propriétés. Donc il ne faut pas chercher le temps comme les autres propriétés des corps. Il est une propriété des corps, mais il ne faut pas essayer de le connaître de la même façon que les autres. C'est-à-dire en les ramenant aux prénotions que nous avons en nous. Qu'est-ce que c'est qu'une prénotion pour les épicuriens? C'est une notion qui se constitue progressivement par ce qu'on appelle l'induction, c'est-à-dire en voyant une multiplicité de cas semblables, donc par une multiplicité d'observations, d'expériences, on acquiert une notion générale de ce qu'est une chose, et ensuite, chaque fois qu'on en rencontrera un nouveau cas, on pourra la placer sous cette notion, donc on reconnaîtra qu'il s'agit de telle et telle chose. Donc, le temps, il ne faut pas essayer d'en constituer une notion de laquelle donc, on pourra dire, voilà, je peux expliquer ce qu'il est en tant que tel. Hein. À partir du moment où j'ai la notion d'arbre, par exemple, je peux dire ce que c'est qu'un arbre. Le temps, on ne pourra pas le faire comme ça. Donc en somme, il renonce hein, à une définition ou à une explicitation de ce qu'est le temps. Mais en considérant avec familiarité l'évidence avec laquelle nous disons qu'il y a beaucoup ou peu de temps, il faut le connaître par analogie. La connaissance par analogie, c'est toujours une connaissance par défaut. Quand on ne peut pas avoir une connaissance vraiment précise, directe, bien établie de la chose, on fait une analogie avec autre chose. Et donc ici, on va simplement dire, bon, on a cette évidence, hein, tout le monde l'utilise et personne n'est embarrassé pour savoir ce que ça veut dire. Donc tout le monde utilise le fait qu'il y ait beaucoup ou peu de temps. C'est une appréciation courante. Et par là, on pourra simplement dire par analogie, ben voilà, le temps, c'est ce qu'on apprécie comme le beaucoup ou le peu, c'est tout. Et ça suffit. Et il ne faut pas lui substituer des mots qui seraient meilleurs. Donc par exemple, si on essaye de dire ben, c'est un nombre ou c'est un intervalle, c'est toujours substituer des mots autres. Mais utiliser ceux-là même qui existent à son propos, ni lui attribuer autre chose qui aurait la même essence que sa particularité. Car c'est ce que font certains. Donc il ne faut pas essayer de lui donner d'autres déterminations que ce qui lui est familièrement particulier. Mais seulement raisonner sur ce à quoi nous l'associons et d'après quoi nous le mesurons. Car une démonstration n'est pas nécessaire, mais il suffit de penser que nous associons un accident particulier, alors accident de nouveau au sens aristotélicien, c'est-à-dire un attribut, une propriété. Donc nous associons une certaine propriété au jour et aux nuits, donc hein, chose extrêmement familière, et à leur partie, ainsi qu'aux affections et aux absences d'affection, au mouvement et au repos. Affection, ça veut dire les transformations, les modifications que peut subir une chose. Donc, au fond, il reprend cette idée qu'on a trouvée jusqu'ici chez tous les penseurs, que le temps est bien associé à des changements, quels qu'ils soient. Mais lui, simplement, nous dit qu'il ne faut pas chercher exactement en quoi il est associé, hein, quel est exactement ce rapport. Et que c'est à leur propos que nous concevons cela même que nous appelons le temps. Donc c'est quand on a cette expérience d'un changement qu'on peut dire s'il est long ou court, alors c'est cela que nous associons au temps et c'est cela que nous appelons le temps. Et ça suffit. Donc voilà, en fait, vous voyez un très, très fort recul théorique, en tout cas, par rapport à la tentative tellement importante de Platon et d'Aristote pour connaître la nature du temps. Par la suite, il ne se passe pas grand-chose durant l'époque romaine. Les Romains ne sont pas des grands théoriciens, hein, ce sont des esprits pratiques, ils n'ajoutent pas grand-chose aux théories dont ils héritent des Grecs, jusqu'au IIIe siècle de notre ère, où apparaît un renouveau du platonisme sous l'égide de Plotin. Plotin qui est un alexandrin qui est allé s'établir à Rome et qui enseigne Platon, qui a un enseignement oral de Platon. Il connaît très très bien les dialogues de Platon, mais en fait la manière dont il explique ces dialogues est tellement personnelle et en fait il les interprète d'une manière tellement au fond différente de la lettre du texte platonicien que on dit que ce n'est plus du platonisme, mais du néoplatonisme. Donc il a vraiment renouvelé le platonisme, et c'est le fondateur du mouvement qu'on a appelé ensuite néoplatonisme. Et sur le temps, donc, il commence par reprendre l'expression qu'utilisait Platon dans le Timée, à savoir que le temps est l'image mobile de l'éternité, qui, remarquez-le, n'est pas une définition pour Platon, hein, ce n'est pas une définition du temps, c'est simplement que on le situe par rapport à l'éternité. Ce n'est pas cette définition d'être une image, il est autre chose. On a vu quoi chez Platon, hein, puisqu'on a vu que c'était justement cette mesure de la rotation circulaire. Et Plotin insiste beaucoup sur le rapport entre image, c'est-à-dire copie, et modèle. Puisque l'éternité est le modèle, eh bien, on ne peut connaître sa copie qu'en ayant d'abord compris ce que c'était que le modèle. Ça a l'air logique, dit comme ça. Donc on va d'abord se demander ce que c'est que l'éternité. Alors, c'est un type de logique qui est opposé à la méthode aristotélicienne, parce que la méthode aristotélicienne consiste toujours à partir du plus connu pour nous, de ce qu'on connaît le mieux, et donc ce n'est pas l'éternité qu'on connaît le mieux, ce serait plutôt l'inverse. Hein. On doit plutôt essayer de comprendre ce que ça pourrait être l'éternité, par distinction d'avec le temps qui, lui, nous est familier. Plotin fait l'inverse, donc il dit « partons du modèle, et donc définissons d'abord l'éternité ». Et pour définir l'éternité, il écarte d'abord deux conceptions qui ont été proposées dans un cadre platonicien pour dire l'éternité. Ces deux conceptions, c'est l'éternité est la totalité de l'intelligible ou bien est le repos de l'intelligible. Alors qu'est-ce que l'intelligible d'abord ? Donc je vous le rappelle, l'intelligible, c'est simplement l'ensemble des formes ou des idées qui sont pensées, que nous pouvons penser, hein, que nous pouvons saisir par la pensée. Donc, intelligible veut dire pensable, on peut les saisir avec notre intelligence, mais qui existent en elles-mêmes, et qui sont même ce qui existe au plus haut point. Donc, l'éternité, évidemment, caractérise, on l'a vu, hein, ces formes, puisque elles sont éternelles, elles ne connaissent pas le temps, elles n'ont pas de passé, de futur, on a vu décrit tout ça par Platon. Et donc, on pourrait se dire, effectivement, l'éternité, c'est la totalité de ces formes. Mais Plotin dit non, ça ne se confond pas avec une totalité parce que l'éternité n'inclut pas ces formes. Ce n'est pas comme si c'était l'ensemble qui englobait toutes ces formes. En fait, toutes ces formes participent à l'éternité. Et c'est tout à fait conforme à la pensée de Platon que quand on dit que quelque chose est et qu'on lui donne un adjectif quelconque, ça veut dire qu'il participe à cette forme. Par exemple, toutes les choses belles participent à la beauté. Pourquoi est-ce qu'elles sont belles? C'est parce qu'elles participent au beau en soi, à ce qui est le beau en tant que tel et uniquement tel. Donc la forme beau, ou l'idée de beau. Et donc ici, c'est pareil. Chacune des formes participe à l'éternité, en ce sens qu'elle est éternelle. Mais l'éternité n'est pas leur totalité. Donc on voit, c'est important, effectivement, c'est une nuance d'expression qui est vraiment importante. Donc elle participe toute à l'éternité. Alors l'autre conception, c'était, est-ce que l'éternité, c'est le repos dans l'intelligible? On voudrait dire ça par parallélisme avec le temps, qui est la mesure du mouvement du sensible. Donc on aurait ce parallèle, cette équivalence, d'un côté le mouvement et le sensible, de l'autre côté le repos et l'intelligible. Mais Plotin dit que l'éternité ne se confond pas avec le repos. Il y a bien une forme qui est la forme du repos, mais en réalité, il y a une distinction entre les deux notions parce que, dit-il, le repos comporte une extension. Le repos, c'est une certaine extension de la même manière que le mouvement. On peut mesurer le repos. Le repos, il a un avant, un après, il a un passé, un futur, enfin de la même manière que le mouvement. C'est ce que disait aussi Aristote, puisqu'il disait « le temps est aussi le nombre du repos ». Donc l'éternité, ce n'est pas ça. L'éternité, elle n'a aucune extension, comme on l'a vu. Elle n'a pas d'écoulement et elle n'est pas dans le renouvellement continuel, alors que le repos, bien, c'est quelque chose qui se renouvelle constamment. Donc on est encore en repos, il y a encore une phase de repos, encore une phase de repos, ben, jusqu'à ce qu'on ait une phase de mouvement. Et donc, il parvient à cette définition que vous avez sur le troisième texte. On voit l'éternité. Alors, c'est intéressant comme Plotin utilise souvent le terme « voir », le verbe « de voir » pour dire une pensée, en fait. C'est une vision par l'intelligence. On voit par l'intelligence l'éternité. En voyant une vie qui demeure toujours dans le même. Pourquoi une vie? Alors, ça aussi, ça demande... de comprendre la manière dont Plotin modifie la notion d'idée platonicienne. Pourquoi est-ce qu'il leur attribue la vie? C'est parce que Plotin considère que les idées ne sont pas seulement des intelligibles, donc pensables par nous, mais sont aussi des intelligences, donc actives. Elles pensent. Elles ne sont pas seulement pensées, elles pensent. Et comme la pensée est un acte du vivant, il n'y a qu'un vivant qui peut penser, bah du coup, il faut leur attribuer la vie. Donc chacune des idées est aussi une vie. C'est pour ça qu'il... Donc il peut dire que l'éternité aussi est une vie qui demeure toujours dans le même, ça on a vu déjà dans le Timée, toujours dans le même, c'est par opposition évidemment à se transformer, devenir autre, donc multiple. Ayant le tout présent, et non ceci maintenant et autre chose ensuite. Mais toutes les choses à la fois. Donc c'est un présent, non pas continu, duratif, c'est vraiment tout à la fois donné en une seule fois, en un instant si on veut, donc sans aucune extension. Et non les unes maintenant, les autres plus tard, mais une fin sans partie. Alors une fin, c'est parce que c'est la fin au sens de l'achèvement. L'éternité, elle est directement dans son achèvement, contrairement à quelque chose qui advient par une progression. Comme ce qui advient par un mouvement, ça vient progressivement, ça vient petit à petit, et puis à un moment, ça atteint son achèvement, ça arrive à sa fin. Ben elle est immédiatement dans sa fin, au sens de son achèvement. Toute chose étant ensemble, comme en un point, alors on voit bien l'analogie que faisait déjà Aristote entre l'instant et le point, et ne progressant pas en s'écoulant, mais demeurant dans le même, en elle-même, et pas seulement sans mouvement, étant toujours dans le présent, parce que rien d'elle n'est passé ni n'arrivera, mais étant cela même qu'elle est. Cela même qu'elle est, parce que si elle devait se modifier ne fût-ce qu'un peu, elle ne serait plus ce qu'elle est, puisque ce qu'elle est absolument simple, elle n'est que éternité. Mais ça, c'est vrai pour chacune des formes platoniciennes. Chacune des formes n'est que ce qu'elle est. La beauté, par exemple, la forme beauté n'est que belle. On ne peut rien lui dire d'autre. Elle n'est pas autre chose. Donc elle ne peut pas se modifier. Donc une fois qu'il a défini l'éternité, Plotin maintenant passe à sa copie, le temps, et il commence par passer en revue les opinions qui sont arrivées jusqu'à lui dans la philosophie pour les mettre à l'épreuve, les réfuter et exposer ensuite la sienne. Il rassemble les opinions sous trois grands groupes. Il y a celles qui considèrent le temps comme le mouvement, d'autres comme la sphère du tout, et d'autres comme quelque chose du mouvement. Alors on reconnaît en fait la tripartition qui était déjà chez Aristote. Hein, donc on voit bien que Plotin ici suit le traité de la physique d'Aristote, c'est assez clair. Vous verrez, c'est clair dans le déroulement. Donc, ou bien, c'est, alors les deux premières opinions, le mouvement ou la sphère du tout, il les réfute très très rapidement, très facilement, et je ne reprends pas la critique puisqu'elle était déjà chez Aristote. La troisième conception, il faut la préciser. Donc, le temps est quelque chose du mouvement, mais quoi ? Là, de nouveau, il distingue trois possibilités. La première, c'est l'intervalle, le diastéma des stoïciens. La deuxième, c'est la mesure. Et la troisième, c'est quelque chose qui accompagne le mouvement, un accompagnant. Ça, on ne sait pas exactement à qui, d'ailleurs, ça fait référence. Et donc, il les critique une par une, et ce faisant, bon, il avance des choses qui peuvent être intéressantes pour nous. Contre la notion d'intervalle, il fait deux objections. Une première qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, la deuxième bien. La première, c'est tout mouvement, en fait, a un intervalle, et par conséquent, tout mouvement pourrait aussi bien être le temps et servir d'unité de temps, d'unité de mesure du temps. Ça, ce n'est pas un problème dans un cadre aristotélicien. Au contraire, c'est parfaitement assumé par Aristote. Il y a un temps de chaque mouvement peut être délimité sous la forme d'un intervalle entre deux points de référence, et chaque mouvement pourrait parfaitement être pris comme unité de mesure. Hein, l'unité de mesure, elle est arbitraire. Il suffit qu'on puisse la reporter un certain nombre de fois sur n'importe quelle quantité de mouvement. Donc, ça ne pose pas de problème en soi, cette conception. Ça ne pose un problème que si on considère que le temps doit être lié à un certain mouvement particulier, privilégié, comme on l'a vu chez Platon, justement. Hein, donc, où c'est uniquement le mouvement de la sphère qui est digne de recevoir le nom de temps. Ou du moins, c'est seulement parce que son mouvement est absolument régulier qu'il peut servir d'unité de mesure. Donc, cette objection-là n'est pas nécessairement très importante pour, disons, quand on prend un peu de recul par rapport au cadre platonicien. Mais la deuxième est plus intéressante. Il dit que, en fait, qu'est-ce qui distingue l'intervalle du mouvement lui-même? Parce qu'un intervalle, c'est un intervalle de mouvement. Donc pourquoi est-ce que l'intervalle serait le temps et pas du mouvement, tout simplement? Ça, c'est plus important. Alors, il dit parce que, en fait, pourquoi est-ce qu'on dit que le mouvement a un intervalle? C'est parce qu'il a cette propriété de ne pas être donné tout d'un coup. Donc, contrairement à l'éternité, hein, de ne pas être, le mouvement n'est pas donné tout d'un coup, mais progressivement. Mais, ajoute-t-il, si on peut juger que le mouvement n'est pas donné tout d'un coup, mais dans une certaine extension, c'est grâce au temps. C'est grâce au temps qu'on fait cette différence entre ce qui est instantané et ce qui est dans la durée. Et ça, c'est vraiment très très important, parce qu'on va systématiquement, en fait, trouver ce dilemme et le choix nécessaire entre ces deux possibilités, ou bien c'est parce qu'il y a du mouvement qu'il y a un temps qui est quelque chose de ce mouvement, ou bien c'est parce qu'il y a du temps qu'il peut y avoir du mouvement, parce que le temps est comme un milieu, en fait, dans lequel le mouvement peut se déployer. On a parfois cette impression, surtout dans les théories, disons, scientifiques, où on a l'impression que l'évolution de l'univers se fait dans un temps comme s'il est préexistant, hein, comme préexistant, comme s'il y avait déjà cette espèce d'infini dans la succession, dans lequel, de la même manière que dans l'espace, hein, dans lequel peut se déployer une certaine évolution, un certain changement. Donc on va toujours retrouver le choix à faire entre ces deux conceptions. Et là, Plotin, vous voyez, choisit cette conception que le temps est la condition du mouvement et non l'inverse. Aristote choisissait l'inverse. Et on va tout le temps avoir... Alors, pour nous, qu'est-ce qui importe? C'est de voir quels sont les arguments dans un sens et dans l'autre pour essayer de choisir le meilleur, la meilleure de ces deux positions. Mais Plotin, malheureusement, ne donne pas plus, ne donne pas d'arguments, en fait, pour ce choix. Il ajoute simplement que, donc, en vertu de cette considération que le temps est une condition pour que le mouvement puisse se déployer, alors le temps est quelque chose le long de quoi le mouvement se déploie. Comme si on mettait une deuxième extension antérieure à l'extension du mouvement. Enfin, donc dans ce cas-là, une première extension qui est le temps, et puis l'extension du mouvement. Donc on voit qu'il y a deux choses qui se longent l'une l'autre, comme ça. Mais il dit alors, le problème, c'est que cette extension-là, premièrement, on ne sait toujours pas ce qu'elle est, on n'a toujours pas donné sa nature. Et deuxièmement, pour pouvoir elle-même être étendue, il faut aussi qu'il y ait déjà du temps. Si on considère que toute extension a pour condition le temps, alors elle-même a déjà besoin du temps. Donc voilà comment il réfute, ça c'est un peu plus subtil, la notion d'intervalle au sens d'extension. Alors ensuite, il s'attaque à la notion de nombre ou de mesure. Il met les deux ensemble en disant que la seule distinction entre les deux, c'est que le nombre mesure des unités discrètes ou des corps discrets, des ensembles discrets, tandis que la mesure mesure des quantités continues. Donc l'opposition entre le discret et le continu correspond à cette opposition entre le nombre et la mesure. Je vous donne un exemple. Si je veux compter un certain nombre d'unités discrètes, par exemple le nombre de ces chaises, qui sont chacune une entité séparée des autres, je vais utiliser un nombre, mais au sens mathématique du terme, un nombre 1, 2, 3, etc., la série des nombres entiers naturels. Donc je vais utiliser ça. Ce sont des unités discrètes. Si, au contraire, je veux mesurer une distance continue, par exemple la largeur de cette salle, je vais utiliser une mesure comme un mètre qui est elle-même une portion continue de grandeur. Donc ça, ce sera à proprement parler une mesure. Donc la mesure se spécialise à partir d'un certain moment dans le fait d'être une portion continue, d'un tout continu. Alors que dans le cas d'entités distinctes, discrètes, on dira qu'il y en a un certain nombre. Mais vous voyez que si Plotin considère déjà le nombre dans la définition du temps comme ce nombre mathématique, il est déjà passé à côté de l'essentiel de ce qu'essayait de dire Aristote avec cette notion. Or, c'est bien la définition d'Aristote qu'il considère ici, parce qu'il ajoute la deuxième partie, le fait que ce soit selon l'antérieur et postérieur dans le mouvement. Donc ensuite, il critique cette deuxième partie, celle de l'antérieur et postérieur. Et il le fait, de nouveau, avec le même type d'objection que celle de Straton. Donc vous voyez que déjà, comme Straton, il a compris le nombre dans le sens mathématique du terme, et comme Straton, il réfute la notion d'antérieur et postérieur parce que il ne la considère pas dans la grandeur, mais directement dans le temps. Donc il dit que la définition est circulaire, c'est la même objection, que la définition du temps est circulaire parce que la notion d'antérieur et postérieur dans cette définition doit nécessairement être temporelle. Et si elle est temporelle, alors on utilise le temps dans ce qui doit définir le temps. Mais il ne devrait pas dire qu'elle est nécessairement temporelle. Ce n'est pas parce qu'on a une définition du temps que cette notion est utilisée dans son usage temporel. Il était en fait utilisé dans son usage antérieur de grandeur. Donc vous voyez une réfutation de la définition d'Aristote qui passe à côté de l'essentiel de ce qu'a voulu dire Aristote. Et c'est en ça que je parlais d'une perte. On a vraiment perdu la signification profonde de ces termes. On a perdu. Alors est-ce que c'est volontairement ou involontairement? C'est une autre question, bien sûr. Alors il y a la troisième conception qu'il réfute, c'est celle selon laquelle le temps est un certain accompagnement du mouvement. Et cet accompagnement, premièrement en disant ça, on ne dit pas la nature du temps, donc on n'a pas résolu la question. Et puis donc de nouveau, il pense que si c'est un accompagnant, s'il suit le mouvement, eh bien lui aussi doit être dans le temps. Et donc, on a de nouveau une circularité. Donc, hop, il évacue de cette manière-là cette proposition. Et donc, il en vient à sa propre proposition. Alors, sa propre conception, c'est que, pour reprendre l'origine dans le Timée, vous vous rappelez que Timée donc, créait le temps après avoir créé le corps de l'univers et son âme, grâce au mouvement de la rotation des étoiles fixes, mouvement qui était lui-même permis par l'âme, donc qui est par l'âme automotrice de l'univers. Et Plotin, en fait, ce qu'il supprime, c'est la figure du démiurge, donc ce dieu artisan qui était censé appliquer les formes dans la matière, il supprime cet intermédiaire et il dit que c'est directement l'âme qui crée le temps. Donc l'âme de l'univers, c'est directement elle qui crée le temps. Comment ? Alors, là, bon, c'est une explication qui n'est plus extrêmement physique, mais qui dépend, enfin qui n'est plus du tout physique même, mais qui dépend de tout le système de représentation de l'univers des néoplatoniciens. Cette représentation, la voilà, donc c'est en fait, on a un système qu'on appelle à trois hypostases. Hypostase, c'est simplement le mot grec pour dire un type de réalité. Un certain type de réalité. On a trois types de réalité dans le système néoplatonicien. On a l'âme. Au-dessus de l'âme, on a l'intelligible. Et au-dessus de l'intelligible, on a l'un, qui est un principe donc au-delà de l'être. L'être se trouve ici. Donc ça, c'est l'ensemble des formes platoniciennes. Et au-delà de cet être, donc dont on ne, il y a l'un dont on ne peut même pas dire qu'il est, tellement il est au-delà. Mais il est principe par rapport à l'intelligible. Il est principe de quelle manière ? Bon, il y a une manière simple de dire qu'il est principe, c'est que toute forme doit avoir un certain type d'unité. Donc, comme tout le reste des choses, ça, toute chose a un certain type d'unité. Donc, on pourrait dire, toute unité trouve son principe dans l'un, hein, au sens général du terme. Mais en fait, ce n'est pas ça. Parce que si c'était ça, il y aurait simplement une idée de un, comme chez Platon. Chez Platon, il y a une idée de un, à laquelle chaque chose participe, puisqu'elle a une certaine unité. Mais c'est à l'intérieur de l'intelligible que ça se passe. En fait, en ajoutant ce principe 1, Plotin crée vraiment quelque chose de complètement différent, qu'on ne peut pas atteindre de manière conceptuelle. Donc déjà, dit-il, le fait de l'appeler 1, c'est déjà un abus de langage. Bon, alors je n'insiste pas là-dessus, hein, mais on est dans des considérations, disons, au-delà du langage, donc ça devient difficile d'en parler. Mais donc en tout cas, ensuite, on a l'intelligible qui est principe de l'âme. Et c'est. Alors, je vais d'abord dire, il y a un mouvement inverse qui se fait aussi. L'âme possède une certaine remontée à l'intelligible ou intelligent, et l'intelligible à l'un. Et donc, la descente s'appelle procession, et la remontée s'appelle conversion. C'est pas une création qui a lieu à un certain moment. C'est pas qu'à un certain moment, l'un aurait en quelque sorte créé l'intelligible et puis l'intelligible aurait créé l'âme. C'est pas ça, puisque, en fait, on sait très bien que l'intelligible est éternel, l'un évidemment l'est aussi. Et en fait, alors l'âme, elle est éternelle aussi, mais elle va se transformer. Donc ce qui va se passer, et c'est là qu'on en arrive à la création du temps, c'est que l'âme qui au départ était. Au repos dans l'être, dit-il. Au repos dans l'être, donc au repos dans l'intelligible. L'âme était en repos dans l'intelligible. Et à un certain moment, elle va se temporaliser. Et ça, c'est vraiment un verbe extraordinaire parce que Plotin crée le mot, crée le verbe chrono. Donc à partir de chronos, le verbe chrono, se temporaliser, c'est-à-dire se rendre soi-même temporel. Et ce verbe n'est plus jamais utilisé après. C'est une espèce de, ce qu'on appelle techniquement un apax, une seule fois, chez Plotin, il y a ce verbe se temporaliser. Alors que, bon, alors au XXe siècle, on va user et abuser de se temporaliser. Mais voilà, c'est l'âme qui se temporalise elle-même. Donc, alors qu'elle était au repos dans l'intelligible, qu'est-ce qui lui arrive ? Plotin dit qu'elle ne se contente plus de l'unité, d'être toujours dans le même, d'être toujours au présent et en un seul coup. Elle veut plus que le présent, dit-il. Elle veut plus que le présent. Et donc, elle va créer ce qu'elle désire en se mettant en mouvement. C'est elle-même qui se met en mouvement. Et de ce fait, elle se temporalise en même temps, hein, puisqu'il y a une liaison entre le mouvement et le temps. Donc, c'est l'âme elle-même. C'est sa propre, en quelque sorte, décision, son propre désir qui crée le temps. Et après s'être temporalisée elle-même, elle soumet au temps le reste de l'univers. Donc on a supprimé l'intermédiaire du démiurge, c'est plus le démiurge qui crée le temps, et le temps n'est plus exclusivement non plus le mouvement de la sphère. Donc on voit bien que Plotin, là, a bénéficié en fait hein, de tout ce qui a suivi la théorie de Platon, il a bien compris qu'on ne pouvait pas limiter le temps à la rotation de la sphère, Donc là, il corrige ça en disant bien que le temps concerne tous les mouvements sensibles. Et par ailleurs, on pourrait aussi avancer des raisons pour lesquelles il supprime l'intermédiaire du démiurge. En partie, je pense, ça doit être parce que Platon avait averti lui-même qu'il s'exprimait de manière mythique, et c'est sûr que pour Platon, il fallait prendre ça symboliquement. C'est simplement que Platon n'arrivait pas à définir exactement ce qui faisait le contact entre les formes intelligibles et la matière où elles se réalisent. Il n'arrivait pas à donner ça, et d'ailleurs après lui, il y a eu diverses propositions dans la période intermédiaire, diverses propositions pour essayer de comprendre cet intermédiaire. Donc le démiurge n'était qu'une figure symbolique. Donc ce n'est pas étonnant que Plotin n'en tienne pas compte. Et par ailleurs, il faut aussi voir qu'au IIIe siècle de notre ère, il y a de plus en plus de pensées rivales de la philosophie, et de la philosophie platonicienne aussi, de plus en plus de pensées rivales qui sont créationnistes. On a une montée du créationnisme, pas seulement chrétien, même si les chrétiens, ce n'est pas encore très dominant le christianisme, mais ça commence à se répandre. Et puis, mais il y a d'autres pensées de type aussi plutôt religieux, comme le gnosticisme ou le manichéisme, qui sont des pensées créationnistes. Et donc, Plotin veut se démarquer probablement aussi de ses pensées en supprimant la notion de créateur, pour ne pas donner l'impression que ce démiurge est un créateur, pour ne pas donner l'impression que dans sa philosophie, il y a, disons, au moins, il ne fût-ce que l'équivalent d'un dieu créateur. Il veut se démarquer. Ça me paraît assez clair parce que le néoplatonisme va vraiment être rival des premières pensées, de la montée dans l'Empire romain des pensées créationnistes qui vont l'emporter, bien sûr. Et d'ailleurs, avec une certaine convergence avec le néoplatonisme. Donc on voit comment le temps est né, mais est-ce que on a compris par là ce qu'il était ? Est-ce qu'on a davantage compris ce qu'il était ? À part le fait qu'il accompagne tout mouvement et qu'il est une image de l'éternité qui, elle, est dans le même, on n'a pas beaucoup avancé. On n'a pas nécessairement une alternative de définition avec Plotin. Après Plotin, dans le néoplatonisme, tout le monde ne va pas suivre cette conception de l'apparition du temps. Proclus, par exemple, qui est un néoplatonicien important du 5e siècle, Proclus revient à la figure du démiurge et il appuie donc ce retour en disant que l'âme ne peut pas avoir créé le temps. Pourquoi ? Parce que l'activité propre à l'âme est une activité de pensée discursive. Ce n'est pas une pensée qui saisit par une intuition immédiate ou instantanée son objet. Ça, c'est l'intelligence. C'est l'intelligence, le nous ou la noésis, qui saisit immédiatement quelque chose dans un instantané. Mais l'âme, elle s'occupe de la dianoïa, elle a pour activité la dianoïa, c'est-à-dire la pensée qui fonctionne par articulation, raisonnement, et donc qui est d'emblée dans une certaine extension, dans une certaine articulation de concepts. Donc par conséquent, cette activité-là, elle a besoin du temps. Elle se déploie dans un temps. Donc si on peut dire que le nous, l'intelligence, qui saisit dans l'immédiat une notion, elle n'a pas besoin du temps. En revanche, la pensée propre à l'âme, elle a besoin du temps. Donc l'âme ne peut pas avoir créé le temps, puisque sinon elle n'aurait pas été elle-même avant. Il fallait déjà qu'elle ait son activité propre d'emblée, sinon elle n'aurait pas été l'âme. Donc elle ne peut pas avoir créé le temps. Et tout ce que Plotin dit de l'âme de l'univers, il le connaît aussi par analogie avec notre propre âme. Donc il y a toujours ce va-et-vient chez lui, qui est tout à fait assumé, puisque c'est seulement comme ça qu'on peut la connaître, entre ce que notre âme, enfin au sens de notre esprit, on dirait maintenant, entre donc, ce que notre esprit fait et ce que fait l'âme de l'univers. Même s'il y a un décalage hiérarchique, mais quand même, on peut. L'âme de l'univers, elle est dans la discursivité comme la nôtre, et notre intellect, notre intelligence, est capable aussi de saisir, par une intuition immédiate. Donc notre intelligence peut s'élever jusqu'à l'équivalent de l'intelligence cosmique qui, elle, est tout le temps uniquement dans la pensée instantanée. Donc on peut nous élever. Et c'est ça qui donne tout son sens au mouvement de conversion. Le mouvement de conversion, il sert d'abord à unifier les hypostases entre elles, pour que cette espèce d'éloignement par rapport au premier principe n'aille pas trop loin, hein, pour qu'il n'y ait pas trop d'éloignement et qu'il n'y ait pas une dispersion trop grande qui aboutirait au néant, en fait. Donc pour ça, il faut qu'il y ait une sorte de resserrement, et l'âme désire du coup à la conversion, c'est un désir. Plotin utilise l'éros de la même manière que Platon dans Le Banquet. Hein, c'est facile, il va chercher chez Platon chaque fois quelque chose qui convient bien. Hein, donc il revient au désir de remonter vers quelque chose. Donc il dit l'âme désire remonter vers l'intelligence d'où elle est en quelque sorte tombée, et l'intelligence de la même manière désire l'un. Et nous aussi en fait, on désire se mettre le plus possible dans une activité d'intelligence, et on désire s'unifier avec l'un. Donc c'est là qu'il apparaît toute une sorte d'exercice pratique de presque mystique de Plotin, d'exercice d'essayer de devenir totalement un avec l'un, ce qui suppose évidemment de se nier complètement soi-même, hein, d'arrêter toute activité propre à l'individu pour essayer d'atteindre une perte totale de soi dans l'unité absolue. Mais bon. Tout ça pour dire donc comment il arrive à donner ces indications à propos de l'âme. Et il dit ensuite que tout l'univers, donc, grâce à cet automouvement que s'est donné l'âme, tout l'univers, désormais, est dans le temps comme il est dans l'âme. Alors ça, il y a une belle image qui dit, donc pour le rapport entre corps et âme de l'univers, il dit « le corps est dans l'âme comme un filet dans la mer ». Donc c'est comme si on baignait, il y a une mer qui est l'âme, et le corps, tout ce qui est corporel, tout ce qui est matériel, est comme un filet qui essaye d'en retenir des parties, mais à travers lequel elle passe constamment. Et c'est vrai pour nous aussi, nous sommes constamment traversés par l'âme, l'âme cosmique est partout, elle nous traverse, et notre âme individuelle en est un petit fragment, qu'on retient pendant un petit temps. Donc tout est dans le temps, et en quelque sorte, il confirme cette expression familière, tout est dans le temps, qui pourtant n'était pas corroborée par d'autres philosophies. Alors ensuite, il ajoute aussi, donc toujours Proclus au 5e siècle, il ajoute aussi que le temps est lui-même créateur, parce que le temps, c'est ce qui fait que les choses parviennent à leur achèvement, et c'est ce qui détermine la durée d'existence plus ou moins longue de chaque créature, de chaque chose qui est dans le devenir. Donc c'est comme si le temps réalisait lui-même le devenir, l'existence de chaque chose, la longueur, la durée de chaque chose, et que c'était lui-même qui menait en quelque sorte les choses à leur maturité, donc à leur développement complet. Comme si le temps était la cause agissante là-dedans. Et en même temps, du coup, tout à fait logiquement, il crée une nouvelle hypostase intermédiaire entre l'âme et l'intelligible, qui est l'hypostase du temps. Bon, alors il y a une multiplication des hypostases au fur et à mesure qu'on avance chez les néoplatoniciens. Chacun en multiplie, bon, il y a de plus en plus d'hypostases, le système devient de plus en plus complexe. Mais en tout cas, le fait qu'il crée une hypostase pour le temps, ça signifie bien qu'il considère le temps comme un principe. Le temps est un principe déterminant, c'est un principe dont dépend complètement l'âme. Donc ça, c'est une considération quand même inversée, hein, à l'inverse de Plotin. Alors, les derniers représentants de l'école platonicienne, là, on est à la fin du 5e siècle, début du 6e, dernier représentant avant que cette école soit fermée, c'est Damascus et Simplicius. Alors, Simplicius, il nous est déjà très familier. Damascus, c'était son maître. Ils reviennent à une étude plus physique de beaucoup de notions, y compris du temps, et notamment par un regain d'intérêt pour Aristote. Bon, on le sait pour Simplicius, puisqu'il a écrit des milliers de pages en commentaire à Aristote. Ils ont un regain d'intérêt pour Aristote. Ils veulent aussi revenir au texte platonicien en enlevant tout ce qui a été recouvert par des générations de néoplatoniciens. Donc, tout en restant dans le système des hypostases, ils y restent, ça ils n'ont pas bouleversé, ils restent dans les principes essentiels de cette doctrine, mais ils vont revenir à une étude physique en plus, si on veut. Et donc, pour le temps physique, ils vont apporter des éclaircissements en reformulant la théorie d'Aristote, en reformulant sa définition de manière plus claire. Et donc ça, c'est surtout chez Simplicius qu'on le trouve, parce que simplement les textes de Damascus sont perdus. Donc, par Simplicius, on a certains extraits, mais c'est tout, on ne sait pas plus. Donc en tout cas, chez Simplicius, on peut dire qu'il y a vraiment une précision du vocabulaire qui explique beaucoup mieux ce qu'Aristote voulait dire, enfin ce que nous avons compris en creusant bien cette théorie d'Aristote. Donc c'est intéressant quand même d'aller voir du côté de ces derniers platoniciens. Alors d'abord, concernant la naissance du temps, ce qu'ils disent, c'est que le temps n'a pas pu apparaître à un certain moment. Donc ils nient qu'il y ait une naissance du temps. Et ils considèrent d'ailleurs, donc je parle de tous les deux, ils considèrent d'ailleurs que c'est ce que disait déjà Platon dans le Timée. Ils considèrent que si on comprend bien le Timée, en réalité, ce qui est exprimé sous la forme d'un mythe avec des créations progressives est en réalité une manière didactique d'exprimer quelque chose qui est constamment à l'œuvre. C'est-à-dire que ces principes qu'énonce Timée sont en fait perpétuels. Ils sont tout le temps en train de commander les choses. Mais ce n'est pas qu'ils ont commencé à un certain moment à les commander. C'est juste qu'ils permettent de comprendre, de donner une intelligibilité aux choses, mais de manière constante. Bon, ils ont probablement raison. Et à propos du temps, donc pourquoi Simplicius, il donne deux arguments principaux pour lesquels le temps n'a pas pu être créé du tout. Donc la question n'est plus est-ce que c'est par le démiurge, est-ce que c'est par l'âme. C'est non, le temps n'a pas pu être créé du tout. Alors premier argument, on retrouve en fait un argument ancien qui était que il est impossible qu'il y ait un commencement du temps parce que pour que le temps commence, il faut que quelque chose change. Donc ce n'est pas l'argument simplement qu'il y avait un avant, ça c'est encore un peu faible. Non, c'est qu'il faut que quelque chose ait changé avant pour commander ce commencement. Sinon, pourquoi il aurait commencé Tout est fait à une cause, donc il faut que quelque chose ait changé de manière à ce que cette cause soit agissante et provoque la naissance, l'apparition du temps. C'est le cas, si on parle du démiurge ou si on parle de l'âme, il y a eu un changement. Pourquoi l'âme a changé? Pourquoi tout d'un coup l'âme s'est mise à désirer se temporaliser? Bon, il faut qu'il y ait eu un changement. Mais s'il y a eu un changement, comme tout changement est accompagné de temps, il y avait déjà du temps. C'est logique. Donc c'est pas possible de dire que le temps a commencé à un certain moment. Parce qu'avant ça, pour qu'il commence, il aurait fallu un changement. S'il y avait un changement, il y avait du temps. Donc c'est le vieil argument, il est toujours valide si on veut bien s'y arrêter, si on veut bien le reconsidérer. Et le deuxième argument de Simplicius, c'est que la bonté et la pensée créatrice du principe fait partie de la nature même du principe. Donc cette bonté qui fait que du principe, que ce soit l'un ou l'intelligible, ou n'importe laquelle des hypostases par rapport à ce qu'elle fait procéder, donc la bonté qui fait qu'elle crée, elle fait partie de la nature du principe, donc forcément elle est toujours agissante. Et donc on ne peut pas dire que c'est à un certain moment que le principe s'est mis à agir. Un principe créateur, si ça fait partie de sa nature de créer, il crée constamment. Alors attention, le mot créer doit être pris avec précaution, puisque dans ce système, la procession n'est pas du tout une création volontaire. Chacune de ces hypostases ne crée pas volontairement une autre chose. C'est simplement que elle a une sorte de surabondance, par sa simple nature, il y a une sorte d'irradiation qui ne lui enlève absolument rien, dont elle n'a peut-être même pas conscience, qui fait qu'une autre nature apparaît. Mais encore une fois, en principe, ce n'est pas chronologique, c'est constamment. Donc tout ça pour dire, deuxième argument de Simplicius, le temps n'a pas pu être produit parce que son principe d'intelligibilité a toujours été agissant. Donc, le temps a toujours été là.
Excuse-moi, la bonté, ça veut dire le don,
Oui, il y a une bonté parce qu'il y a vraiment une valeur associée à chacun de ces principes. Il y a une sorte de... C'est la hiérarchie qui est établie entre eux se double d'un jugement de valeur sur le fait que il y a une bonté totale, mais cette bonté n'est pas dans l'intention, puisqu'il n'y a pas d'intention. L'un n'a aucune intention de créer l'intelligible. Donc sa bonté, c'est simplement qu'il est d'une qualité ontologique extrême. C'est la qualité ontologique de ce que c'est. Qui est créatrice.
L'abondance.
En même temps, l'abondance, c'est une manière de parler, hein, puisque bien sûr, et ce n'est pas quantitatif, ce principe. La générosité, c'est une intention. Donc, il n'y en a pas non plus. Donc, effectivement, tous les mots qu'on pourrait dire, effectivement, nous aident à nous figurer un peu ce que c'est, mais ils sont tous abusifs. Voilà. Bon, c'est un système, évidemment, assez éloigné du sensible et de la rigueur, comment dire, logique.
Ça va de soi.
C'est-à-dire, il faut le saisir d'une autre manière. C'est plutôt ça. Il faut le saisir d'une autre manière. Et on peut le saisir, justement, en pensant à sa propre conversion, en se disant, comment est-ce que moi, je peux me convertir pour me faire d'abord uniquement intelligence, uniquement pensée, et donc ça s'acquiert par des pratiques. Hein. On peut essayer de faire une expérience où on n'est plus que pensée, donc où on néglige tout le reste de ce qui nous arrive. Et puis on peut aussi avoir le désir de ne se faire plus que un. Et donc ça veut dire une perte totale de tout ce qu'on est. Bon, c'est des pratiques qui existent dans d'autres culture, sous forme de méditation, etc. Donc c'est le même genre de choses. Mais c'est à partir de cette possibilité que Plotin pense la conversion de tout, donc le rapport de tout à son principe. Et donc le principe, on peut seulement le saisir de cette façon-là. Ce qui nous arrive quand on fait tellement le vide en nous qu'on se confond avec le vide, en quelque sorte.
Mais on est le temps, alors.
Ah oui, bien sûr, puisqu'on parvient à échapper au temps. Mais déjà, quand on est dans l'intelligible, on parvient à échapper au temps. Au moment où on arrive à se fixer sur une pensée et à n'être plus que cette pensée, Plotin dit qu'à ce moment-là, on se confond avec l'intelligence cosmique. C'est que notre intelligence est une parcelle, en fait, de cette intelligence. Et donc, si on arrive à n'être plus, à nous confondre nous-mêmes, à nous identifier totalement à cette partie de nous, en fait, on s'identifie à une intelligence cosmique. Donc, ça vaut le coup d'essayer. Donc c'est vraiment un autre type de connaissance que ce que font les autres systèmes philosophiques en général. Donc voyons maintenant comment Simplicius revalorise vraiment la définition aristotélicienne et comment il lui donne vraiment tout son sens en arrivant à utiliser des mots peut-être moins équivoques ou moins difficiles à saisir que ceux d'Aristote lui-même. Donc c'est le texte 4. Mais peut-être serons-nous davantage en accord avec Aristote en disant que, même si les différents mouvements, en tant que tel mouvement, c'est-à-dire en tant qu'ils sont tous différents et ils ont tous leur propre durée, diffèrent entre eux, soit par l'espèce, soit par le nombre. Alors, soit par l'espèce, ça veut dire qu'il y a différentes espèces de mouvements, hein, celui qui est local, celui qui est de croissance, celui qui est d'altération, bon, ça c'est les espèces. Soit par le nombre, ça veut dire mais tel déplacement n'est pas tel autre déplacement, donc ils sont différents comme individus, individuellement. Donc cependant, malgré toutes ces différences, ce qui est commun à tout mouvement, c'est-à-dire d'avoir son être dans le devenir et l'ordonner, c'est très important. Qu'est-ce qui est commun à tout mouvement? C'est d'avoir son être dans le devenir, donc son être, son essence, ce qui appartient en propre au mouvement, ce qui le définit, c'est d'être du devenir. C'est de justement ne jamais être au sens de être fixe, être stable. Il est un écoulement nécessairement, c'est sa définition même. Donc d'avoir son être dans le devenir et l'ordonner. Alors j'ai rajouté moi, hein, c'est-à-dire l'ordre de succession. L'ordonner, ça veut dire l'ordre de succession, comme le présentait Platon. Grâce auquel le temps est défini selon l'antérieur et postérieur, suivant l'extension de son existence. Donc vous voyez que c'est toujours la même définition, mais on déploie chaque terme. Hein, on déploie chaque terme. Le temps est défini selon l'antérieur et postérieur, donc on a vu selon les repères, hein, un antérieur, un postérieur, dans l'extension de l'existence du mouvement. Donc un mouvement qui existe à une certaine extension où on peut repérer des repères antérieurs et postérieurs, et grâce à ça, on peut définir le temps. Donc on doit prendre le tout, on doit prendre l'idée de avoir son être dans le devenir, d'être un certain ordre de succession, de pouvoir être repéré par de l'antérieur et postérieur, et d'être dans l'extension du mouvement. Si vous prenez tout ça ensemble, vous avez déployé et explicité la définition aristotélicienne, mais avec des termes, disons, plus précis, plus explicites. Et c'est, mais Simplicius, là, est absolument fidèle à Aristote. Donc c'est cela qui est le même, qui est un et le même partout. Donc quand on se demande quelle est l'unité de tous les temps, il ne faut pas se dire que l'unité c'est une unité de mesure particulière ou que l'unité c'est qu'il y a un seul et même temps pour toutes les choses, pour tous les mouvements, ce qui serait faux. L'unité c'est une unité de notion. C'est qu'on a chaque fois la même notion, hein, quel que soit le temps dont on parle, c'est toujours la même chose par rapport au mouvement. C'est ça l'unité du temps. C'est qui ? C'est une unité conceptuelle. Il a toujours la même nature, où qu'on le prenne, où que soit le mouvement, où on trouve ce temps. Donc on a à la fois une multiplicité de temps, hein, on peut garder une multiplicité de temps, une multiplicité d'unités de mesure, et une définition unique de ce que c'est que le temps. Car même si ce qui est commun au mouvement n'est pas séparé et en soi, donc Simplicius admet ici, hein, en supposant même, hein, admettons avec Aristote, que le temps n'existe pas séparé et en soi par rapport au mouvement, donc contrairement, hein, au système néoplatonicien, mais déjà ordonné, c'est-à-dire déjà dans des corps sensibles qui ont une succession, hein, donc, mais qu'il se trouve dépendant de corps sensibles qui ont une succession, en conservant néanmoins la caractéristique commune, il est partout le même. C'est une manière vraiment, je pense, à la fois fidèle et plus intelligible de comprendre ce que voulait dire Aristote. Et donc, vous voyez que cette caractéristique commune de tout mouvement ne se confond pas avec la définition du mouvement, puisque c'était quelque chose qu'on avait laissé en suspens, hein, à propos de l'intervalle. Qu'est-ce qui différencie au juste le temps par rapport au mouvement? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Ils sont tous les deux dans le devenir, dans l'écoulement, avec de l'antérieur et du postérieur. Donc, qu'est-ce qui les distingue? Mais en fait, si on essaye de trouver une définition du mouvement lui-même, on va le caractériser essentiellement par la différence entre deux états de la même chose. Un mouvement, ou un changement, pour dire un terme qui nous évoque quelque chose de tout à fait général, un changement, c'est toujours une différence entre deux états de la même chose. Or, c'est entre deux états qui ne peuvent pas coexister, qui s'excluent l'un l'autre. C'est seulement à ce moment-là qu'il y a mouvement. Bien entendu, il ne suffit pas d'avoir deux états coexistants de la même chose. Si je dis une chose à la fois rouge et noire, il n'y a pas encore de mouvement là-dedans. Mais si je dis une chose est en mouvement du rouge au noir, les deux états sont distincts en ce qu'ils ne peuvent pas coexister dans la chose. Et donc, s'ils ne peuvent pas coexister, il faut nécessairement qu'ils se succèdent. Et c'est pour ça qu'il y a succession. C'est à cause de la non-existence, de cette différence, qui n'est pas une différence de juxtaposition, où on a les deux termes différents ensemble, mais une différence où les deux termes s'excluent l'un l'autre et donc doivent nécessairement se succéder. Et c'est comme ça qu'on obtient la succession. Et cette succession, justement, qui se déploie alors, qui se renouvelle, hein, parce que les états, il y en a une infinité dans une portion de mouvement, cette succession, c'est ça le temps. Donc le temps n'est pas la même chose que le mouvement, mais dès qu'on a mouvement, on a quelque chose qui en est la propriété inséparable, qui est le temps. Je pense que là, on s'est approché d'une définition vraiment très serrée et, je pense, assez irréfutable. Mais bon, elle va encore être mise à l'épreuve par la suite de toute façon. Donc on verra si elle est irréfutable ou pas. Alors, est-ce qu'on peut dire que le temps implique la notion d'ordre? Parce qu'on voit que Simplicius, lui, il tient à la notion d'ordonné qui lui vient de Platon. Est-ce que le temps implique la notion d'ordre? Alors ça dépend, parce que le mot grec qui signifie ordre, c'est le mot taxis. Il peut signifier deux choses. Il peut signifier simplement la simple succession. C'est par exemple, ces rangées sont disposées en ordre tout simplement parce qu'elles se suivent. Mais dans cet ordre, il n'y a pas nécessairement de différence Je veux dire, il n'y a pas nécessairement l'une qui doit forcément se trouver avant l'autre. Hein, je parle de différence nécessaire, de place nécessaire de l'une par rapport à l'autre. Il n'y en a pas nécessairement. Hein, je veux dire, si vous inversez deux rangées, ça ne changera rien du tout à la totalité. Mais si on prend le mot ordre au sens où précisément la succession est une disposition où on ne peut pas inverser deux étapes parce que sinon on change tout, alors le temps n'est pas ça. Alors cette notion-là ne doit pas se trouver dans les définitions du temps. Parce que même si vous aviez un mouvement, un changement complètement chaotique, un changement où les états n'ont pas l'air de se succéder de manière causaliste, parce qu'en général, on est habitué à ce qu'un changement, il se déroule de manière causale, en obéissant à une certaine causalité, c'est-à-dire que l'étape postérieure dépend de l'étape antérieure. C'est parce qu'il a d'abord été comme ça qu'ensuite il sera comme ça, et ensuite comme ça. On passe du noir au blanc, en passant par toutes les nuances de gris, dans un certain ordre de succession obligatoire. On n'aura pas d'abord du plus blanc, et puis de nouveau du plus noir, etc. Bon. Donc si on avait maintenant que des mouvements chaotiques qui ne suivent pas un ordre régulier de ce type, une progression régulière, on aurait quand même du temps. Ça n'empêcherait absolument pas d'avoir du temps. Donc si dans la notion d'ordre, on met que la régularité doit être régulée, notamment par la causalité, alors cette notion n'est pas indispensable au temps. Si on prend ordre simplement comme un synonyme de succession, alors oui, ça fait partie de la définition du temps. Vous voyez, mais c'est très important de retenir cette distinction. Très important, parce que justement, si on réfléchit au rapport entre la causalité dans le mouvement et le temps. Je vous donne un exemple en physique contemporaine. Cette fois-ci, on n'est plus dans la relativité, on est dans la quantique. L'indétermination quantique, c'est quoi? C'est qu'on ne voit plus de lien logique, de causalité, entre la position d'une particule à un certain moment et sa position à un autre moment. Donc elle peut être là, puis là, ou même on ne sait pas très bien où est sa position, mais en tout cas, il n'y a plus de logique dans le fait que pour être ici et puis là, elle a dû passer par cette trajectoire. Alors ça, c'est dans la quantique, on ne peut plus observer ça. Est-ce que du coup, la quantique abolit le temps puisqu'elle abolit cette espèce de linéarité du mouvement? Eh bien non, ça n'empêche qu'il y a des successions. Elle est d'abord ici et puis là. On peut quand même distinguer que... il y a des différences, hein, il y a des différences d'état de cette particule, et ces différences d'état suffisent, qui sont à condition qu'ils s'excluent l'un l'autre, évidemment, donc suffit à ce qui est du temps. Donc on voit bien que le temps n'a même pas besoin d'une causalité linéaire agissant pour montrer une progression, pour créer une progression du mouvement. Ça, je pense que c'est vraiment très intéressant à retenir. Donc merci Simplicius, moi je le remercie toujours. Alors, dernière chose chez Simplicius, la condition subjective du temps, qu'est-ce qu'elle devient? On avait vu que chez Aristote, il y avait une condition subjective qui était que le passé et le futur n'existent que dans notre esprit, n'existent que pour une conscience, parce qu'il faut pouvoir retenir ce qui n'est plus. Les états du mouvement qui ne sont plus, qui sont passés, ils ne sont plus nulle part. Dans l'univers réel, ils ne sont plus nulle part. Mais ils sont encore dans notre esprit. On peut les reconstituer, même si on ne les a pas observés directement, on peut les reconstituer justement par la causalité. Mais ça, c'est une reconstitution intellectuelle de dire, puisque c'est comme ça maintenant, c'est que ça a été comme ça auparavant, on reconstitue. Bon. Donc c'est toujours notre esprit qui recrée le passé et qui envisage, qui anticipe ce que ça pourrait être dans le futur. Bon, ça, là, dessus, on était tout à fait au clair. Et donc, Simplicius reprend tout à fait cette idée-là. Et donc aussi... c'est seulement notre esprit qui permet de mesurer une certaine quantité de temps et de mouvement, parce que pour mesurer, il faut justement avoir retenu une portion, et donc retenu des repères, un commencement, une fin, il faut avoir retenu une certaine quantité. Donc à nouveau, tout ça c'est permis seulement par notre esprit. Et donc, est-ce que le temps existerait s'il n'y avait pas notre esprit pour le mesurer et pour le retenir son passé et son futur? Est-ce qu'il existerait? Oui, il existerait, puisqu'on l'a défini indépendamment du fait qu'il coexiste un passé et un futur. On n'a pas besoin de ça. On l'a défini justement comme une succession. Donc ça veut dire un renouvellement continuel. Un renouvellement continuel de phases qui s'excluent toutes l'une l'autre. Donc effectivement, sa définition implique que le passé ne reste pas et que le futur ne soit pas encore. Cette définition comprend cette nécessité. Il n'est qu'un renouvellement perpétuel qui exclut l'état précédent. Donc, c'est tout à fait cohérent. C'est tout à fait cohérent. Et ça nous montre aussi que toute représentation linéaire du temps donnée comme un tout, hein, une ligne du temps qui nous est donnée comme un tout, comme une totalité présente, n'est qu'une représentation de notre esprit. C'est sûr que c'est la représentation qui nous sert, évidemment, à toutes sortes d'usages, mais qui n'est pas le temps tel qu'il est. C'est pas, le temps comme, n'est pas ça. C'est une spatialisation. Alors, et du coup, alors, plus tard, on dénoncera beaucoup la spatialisation du temps, mais c'est déjà constaté donc, par les philosophes anciens que, en considérant le temps dans sa totalité, on le spatialise et ça ne peut être qu'une intervention de notre esprit. Donc ça, c'est pour la fin de l'Antiquité. Et je vais faire un grand saut dans le temps parce que je vais passer au-dessus de l'époque médiévale pour essentiellement deux raisons. La première, c'est que je la connais très mal. Et ça, ce serait déjà une raison suffisante. Mais en plus, la réflexion sur le temps va être indissolublement liée à la question de l'éternité divine et à des questions qui se posent, qui sont à partir de problèmes théologiques. Bon, donc ça ne va pas nous concerner directement si on cherche la nature du temps physique. Je vais quand même indiquer un petit peu la transition de l'un à l'autre, et cette transition, elle se trouve chez saint Augustin. Donc saint Augustin, on est à la fin du 4e siècle, début du 5e, et il y a une conception du temps qui montre bien que saint Augustin est à la fois un penseur encore de l'Antiquité et déjà avec déjà certaines propriétés strictement chrétiennes. Dans les confessions, c'est dans les confessions qu'on trouve son étude sur le temps, particulièrement au livre 10 et 11. Au livre 10 d'abord, il s'interroge sur la mémoire. Mais ces deux interrogations sur le temps et sur la mémoire seront toujours à l'occasion d'une question beaucoup plus importante pour lui. Ce n'est pas pris comme thème essentiel, ce n'est pas ça qui l'intéresse particulièrement. C'est juste un passage pour une autre question. Et donc dans le cas de la mémoire, c'est parce qu'il se demande d'où vient le désir de bonheur qui se trouve dans chaque être humain. D'où vient ce désir de bonheur? Et il se demande si c'est parce qu'on a la mémoire d'un état de bonheur qu'on aurait vécu d'une manière ou d'une autre dans le passé. Et donc, pour pouvoir y répondre, il passe en revue tout ce qui peut être dans la mémoire. Hein, donc, il fait une considération qui récapitule aussi tout ce qu'il a hérité hein, sur cette question, sur ce qui est bien-être dans la mémoire. Et c'est l'occasion pour lui de répéter que la mémoire n'est qu'une production d'une conscience, hein, n'est qu'une production de notre esprit, et que le passé que crée la mémoire n'est qu'une production de notre esprit. Donc, en ça, il est d'accord avec les autres philosophes de l'Antiquité. Et au livre 11, là, quand il parle vraiment du temps en tant que tel, c'est aussi pour aborder la question du rapport entre... Enfin, non, pour comprendre pourquoi nous avons un tel désir d'éternité. Donc, comment ça se fait que nous, créatures temporelles, avons un tel désir d'éternité? Et donc, quel est notre rapport avec l'éternité? Et... Il conclut qu'en fait, il passe en revue hein, de long en large toutes sortes de considérations, et puis il conclut que le rapport entre l'éternité de Dieu et la temporalité des créatures est incommensurable. Enfin, là, plus exactement, il n'y a pas de rapport, c'est une distance incommensurable entre les deux. Et ça lui permet de répondre à la question « Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création ?» Il dit que c'est normal de se poser la question, mais qu'en réalité, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de rapport entre l'éternité de l'existence divine et le moment de la création. Parce que le moment de la création, c'est l'apparition du temps. Mais ce n'est pas comme si, à un certain moment de l'éternité, était apparu le temps. C'est absurde de dire ça. Parce qu'effectivement, on tombe sous l'objection qui a été amplement donné dans l'Antiquité, que pourquoi ce moment-là et pas un autre, qu'est-ce qui a changé dans la cause pour que, etc. Donc il dit, il ne faut pas du tout y penser comme ça. Il faut y penser en se disant, l'éternité est une chose, la temporalité en est une complètement différente, et donc on ne peut pas dire qu'il y a une sorte de jointure ou de contact entre les deux. qui fait qu'à un certain moment de l'éternité, il y aurait eu le temps. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il espère sortir donc, de cette difficulté. Il ne résout pas, il ne donne pas d'alternative non plus à ce que pourrait être la nature du temps, mais il écarte des conceptions qui lui semblent erronées, et ce sont les conceptions qu'on a déjà vues écartées par le néoplatonisme, c'est-à-dire le temps n'est pas à réduire au mouvement, le temps n'est pas le mouvement, ne doit pas se confondre avec lui, ni avec une unité de mesure du mouvement, et le temps ne doit pas non plus être spatialisé, il ne faut pas considérer donc, que le passé et le futur existent par eux-mêmes, hein, donnés comme ça en soi. C'est des reconstitutions de notre esprit. Donc en ça, il est tout à fait d'accord avec les autres. Donc vous voyez qu'il fait bien la transition, parce que d'une part, il utilise certains apports de la philosophie païenne, et d'autre part, il replace tout ça dans des considérations qui sont très proprement chrétiennes, et qui, du coup, échappent en fait au type d'argumentation philosophique qu'ont développé les autres. Donc voilà comment il fait la transition. Alors après... ce chapitre, on va passer directement à l'époque moderne, en commençant par Descartes, mais ce sera pour la semaine prochaine, pour qu'on ne termine pas trop tard cette fois-ci. Donc, merci.
Est-ce que tu pourrais revenir sur l'enseignement de Saint-Sulpice, c'est-à-dire toutes les affirmations finalement qui nous ont éclairé la position d'Aristote. J'en ai retenu une qui me semblait importante, c'était le temps est une propriété du mouvement. Mais ensuite tu avais décliné d'autres affirmations qui étaient fondamentales et qui en fait permettaient de comprendre si je résumais ce qu'on avait vu jusqu'alors.
On peut reprendre les termes qu'il utilise dans le quatrième texte, enfin dans le texte numéroté. Avoir son être dans le devenir et dans la succession, ça c'est déjà quelque chose que le temps partage avec le mouvement. Mais par rapport à ça, le mouvement est défini selon l'antérieur et postérieur qui se trouve dans cette extension de l'existence du mouvement. Donc en fait, le fait que le mouvement soit nécessairement une succession d'états antérieurs et postérieurs qui se succèdent de telle manière que l'un exclut l'autre et ne coexiste pas avec lui, du fait que le mouvement est de ce type, c'est pas qu'il crée le temps, hein, c'est pas qu'il crée le temps comme autre chose que lui, c'est que ce que nous reconnaissons comme cette succession, nous l'appelons le temps. Donc c'est que nous appelons temps cette succession du mouvement selon un remplacement perpétuel et qui est quantifiable, parce que c'est quantifiable justement, donc parce qu'il y a une certaine quantité d'étapes qui font que ça peut effectivement durer plus ou moins longtemps. Et donc c'est cette durabilité en somme du mouvement dans son écoulement constamment renouvelé, que nous appelons le temps. Mais en somme, ce n'est pas une autre chose que le mouvement. C'est cet aspect du mouvement qu'on appelle le temps. Et d'ailleurs, Aristote, il y a un endroit où il dit que le temps, c'est une quantité par accident. Alors, quantité, ce qu'il appelle par accident, ça veut dire par l'intermédiaire d'autre chose. En fait, le temps n'est pas en lui-même une quantité, mais c'est simplement qu'il... appartient à une quantité qui est le mouvement. Il est un aspect de cette quantité, mais il n'est pas lui-même une quantité distincte. Il n'est pas autre chose. Donc ça répond aussi à toutes ces objections de Plotin sur l'idée qu'il y aurait deux extensions parallèles, quoi, hein, l'une qui serait le temps, l'autre le mouvement, ce qui a l'air effectivement absurde, parce que pourquoi deux extensions? Alors elles devraient avoir toutes les deux la même condition pour pouvoir être des extensions, etc. Donc bien entendu, il y a une seule extension qui est le mouvement, mais c'est justement cet aspect-là de succession par exclusion qu'on appelle le temps.
Et ça, c'est quelque chose que l'on retient, que l'on peut retenir comme une base de la réflexion.
Il me semble que oui. Il me semble vraiment que c'est un élément qu'on peut toujours considérer à l'heure actuelle et avec lequel, alors ça ne veut pas dire que c'est définitif, mais que quand même, on peut examiner quelles seraient les objections contre cette base. Ouais, comme tu dis.
Est-ce que l'histoire, enfin, introduire les états différents du mouvement, c'est pas une façon, sans le dire, de réintroduire dans la pensée d'Aristote, etc., le vieux devenir qu'on avait soigneusement mis de côté au moment de Platon, etc., une espèce de refoulé de la pensée qui revient avec le temps, sans qu'on le dise, quoi. Parce que les états différents du mouvement, la succession, c'est pas ça le devenir.
C'est compliqué, la distinction entre devenir et changement. Parce que en gros, devenir, ça veut dire changement. Mais chez Platon, il y avait eu, et Aristote en hérite, cette opposition entre devenir et être. Et donc, devenir était vraiment à comprendre, non pas comme un nom, mais comme un verbe, comme une activité. Et donc, dire qu'il y a des choses qui sont et des choses qui deviennent, c'était définir deux modes d'être, en fait, chez Platon. Les choses qui sont ne deviennent pas, c'est-à-dire ne changent pas. Être, ça exclut le changement. Donc, en fait, tout le sensible n'est pas, mais seulement devient. Le type d'existence du sensible est de devenir. Tandis que donc, vraiment, au sens de son activité, c'est de devenir. Par opposition à l'activité ou l'existence des formes qui est être. Mais, évidemment, Aristote, même s'il hérite de la distinction, il ne la conserve pas, puisque pour lui, ce qui devient est aussi. Ce sont des étangs. Enfin, les étangs sont temporels, c'est quand même des étangs. Mais cette idée d'avoir son être dans le devenir reste une expression vraiment importante, parce que ça veut dire que ce qui définit une chose, c'est le fait même qu'elle devienne, mais cette fois-ci, constamment. Parce que nous sommes des choses en devenir, bien sûr, mais nous ne sommes pas caractérisés, définis par l'écoulement. Bien sûr, notre existence se modifie constamment. Enfin, notre corps et nos activités se modifient constamment. Notre vie est constamment dans une légère altération, etc. Mais ce n'est pas ce qui caractérise notre être. Parce que ce qui caractérise notre être, c'est tout ce qui caractérise l'être humain, tout ce qu'on peut dire comme de propre à l'être humain. Ce n'est pas le fait de l'écoulement. Alors que justement, ce qui a son être dans le devenir, ça veut dire ce qui est défini même par ça. Donc effectivement, le devenir est une notion vraiment importante. Et on peut la dire sous une autre forme, sous la forme de écoulement, c'est le même genre, c'est ce qui s'écoule, quoi, c'est ce qui s'écoule, mais vraiment dans ce sens, non pas comme nous qui demeurons tout en changeant, on pourrait dire qu'il y a ça, chez nous il y a toujours à la fois l'identité et la différence. Nous on change constamment, bien sûr, mais on reste aussi les mêmes, il y a toujours cette stabilité de ce qui est, Aristote dirait, notre substance, quoi. Il y a une substance demeure en même temps qu'elle se modifie. Tandis que le temps, non, il n'y a rien qui demeure. C'est toujours autre chose. C'est toujours une nouvelle phase, disons. Donc effectivement, c'est un terme important. À condition qu'on le distingue bien de changement. C'est pas... Sinon, on a une définition circulaire.
Une pirouette, l'histoire de saint Augustin, où il dit qu'il y a une indépendance entre l'éternité et le temps, parce que comment on définit l'éternité, si c'est pas une sorte d'extension infinie.
Non, non, alors non, parce que l'éternité, là, donc, disons déjà depuis Platon, et quand même, alors on sait que saint Augustin est très influencé par le néoplatonisme, il est influencé, il connaît ça. Déjà depuis Platon, on sait que l'éternité, ce n'est pas une durée perpétuelle, ce n'est pas une durée infinie. L'éternité, c'est vraiment un instantané. C'est quelque chose, c'est un présent fixe, unique, qui ne se renouvelle pas. Il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas d'écoulement. Donc l'éternité est vraiment tout autre chose que le temps. Ce n'est pas une durée temporelle. Ce n'est pas une durée temporelle infinie. Et donc on devrait même s'habituer, pour ne pas entraîner de confusion, on devrait même s'habituer à ne pas parler d'un mouvement éternel, mais de dire simplement perpétuel, par exemple, ou infini. On peut... hein, c'est très différent. Le perpétuel, c'est effectivement ce qui dure tout le temps. Mais éternel, c'est ce qui ne dure pas du tout. Pardon ?
Éternel est hors du temps.
Hors du temps. Mmh. Ouais. N'est pas soumis au temps, ne connaît pas de temps. Ne... ouais, c'est un présent instantané. Et donc l'éternité de Dieu, c'est ça. Mais ça a été beaucoup décliné de toutes sortes de manières par les penseurs chrétiens. Comment concevoir l'éternité comme ce point et en même temps la totalité, quoi. Enfin, je veux dire, parce que évidemment, Dieu connaît tout le temps. Dieu connaît tout ce qui se passe dans le temps, tout en étant dans un, tout en étant non pas dans un point du temps, évidemment. Mais tout en étant lui-même dans les, ouais, éternel, quoi, hein, dans ce sens. Alors, une pirouette, disons qu'il avait ça à sa disposition déjà avant, quoi, donc autant l'utiliser, bien sûr.
Pour revenir à Plotin, le passage que tu as lu, est-ce qu'il faut comprendre que pour lui, l'éternité, c'est un présent éternel?
Si tu dis présent éternel, tu utilises dans la définition ce qui est à définir. Donc tu commets une circularité, une erreur logique. Si tu dis l'éternité est un présent éternel, tu dois définir éternel. Mais pour définir éternel, tu dois utiliser éternité. Tu vois, c'est pour ça que c'est circulaire. Mais tu peux dire c'est un présent sans durée, par exemple. C'est un présent sans durée, un présent sans écoulement, un présent sans renouvellement. Voilà, c'est plutôt des termes négatifs qu'il faudra utiliser. Ou à la limite, instantané.
Mais alors, pourquoi un peu plus tard, on a vu que, en parlant de l'âme,
oui,
disait qu'à un moment,
oui,
l'âme se temporalisait. Il n'y a pas une contradiction.
Voilà, c'est vraiment dans le système néoplatonicien. Il y a souvent des expressions qui sont temporelles, alors qu'il faut comprendre tout ça comme un système qui est perpétuellement le même. Donc, c'est ce que je disais à propos du Timée de Platon aussi. En fait, les néoplatoniciens pensent que Platon pensait ça déjà, exprimait déjà dans le Timée sous forme chronologique quelque chose qui ne l'était pas. Et eux-mêmes, c'est aussi ça qu'ils revendiquent, c'est que leur système d'hypostase a toujours été tel. C'est-à-dire, si tu veux, l'âme, elle est perpétuellement duelle. Elle est double, en fait, l'âme. Elle a un aspect multiple et un aspect un. L'âme, c'est un intermédiaire. C'est une entité de transition entre l'intelligible et puis ce qui est plus bas qu'elle, qui est le sensible. C'est vraiment ce qui fait la transition. Et c'est parce qu'elle est double. Elle a à la fois cet aspect de unité et de rester dans le même, qu'elle hérite de l'intelligible, et à la fois, elle a aussi l'aspect de multiplicité qui lui permet de créer la différence du mouvement, la différence du temps, et aussi, après, toutes les différences sensibles, de l'espace. Mais l'âme, elle, en fait, c'est le fait de dire qu'elle est passée du repos dans l'être, hein, comme il disait, au mouvement qu'elle s'est donné elle-même et qui l'a menée à créer le mouvement de l'univers, eh bien, dire qu'elle est passée de l'un à l'autre est un abus de langage pour exprimer que constamment, elle est à la fois une dans l'être et dispersée et en mouvement dans le sensible. C'est pour exprimer cette dualité qui, chez elle, est contemporaine, constamment. Voilà. Il leur semble que c'est pédagogique, hein, que ça fait mieux comprendre de le dire sous une forme de deux étapes successives de l'âme, alors qu'en fait, elle a constamment en elle les deux. Et dans notre âme, on peut voir qu'on peut passer de l'un à l'autre. Notre âme peut passer de l'un à l'autre. Elle peut, bon, la plupart du temps, notre âme vit dans la multiplicité sensible, mais si elle veut le faire, elle peut justement accéder, hein, comme il montrait, à ses principes. Et donc, oh. Et ça veut dire que c'est pas que chaque fois elle monte et elle descend, enfin bon, ça aussi c'est un peu des expressions, mais c'est que elle actualise sa partie une où elle actualise sa partie multiple. Mais en fait, les deux coexistent dans l'âme.
Est-ce qu'on n'est pas tout simplement, enfin, je sais pas, mais entre une notion d'essence et dans la temporisation, la notion d'exister, tout simplement. Est-ce qu'on ne peut pas simplifier le schéma de cette façon
entre ce
l'essence, qui n'a pas de temps, qui est temporel, et l'existence qui est justement dans le devenir.
Ça ne pourrait fonctionner que dans un système de pensée où l'être se confond avec l'essence et le devenir avec l'existence. Mais en fait, ce sont des concepts différents. L'essence d'une chose, c'est ce qu'elle est, ce qu'il a défini en propre, ce qui la permet de la différencier de toutes les autres. Et donc, dans un système où il n'y a pas la dualité être des formes et devenir sensible, hein, où il n'y a pas cette dualité, comme dans le système platonicien et néoplatonicien, il y a néanmoins des essences. C'est-à-dire, on peut parfaitement dire qu'il y a une essence de chaque espèce animale, par exemple, ou bien une essence de chaque type d'objet, sans que pour autant cette essence soit séparée et donc constitue un être immuable, alors que les cas particuliers sont dans le devenir, se modifient, disparaissent. Il n'y a pas besoin de cette séparation pour dire qu'il y a des essences. Bon, Aristote, il parle tout le temps d'essences, mais elles sont dans les choses sensibles. Donc elles ne se confondent pas avec un autre type ontologique. Elles ne sont pas un type ontologique séparé. Donc on ne peut pas vraiment dire que l'être équivaut à l'essence. Et quant à l'existence, c'est aussi une forme récente, une signification récente de l'existence qui la confond avec le déroulement de la vie, enfin, ou le déroulement d'une chose. Mais on peut considérer que, en fait, en grec, on traduit par existence le mot être. C'est toujours le même verbe être qui signifie ou bien l'être au sens des formes, par opposition au devenir, ou bien l'être au sens de le fait qu'une chose est, quoi, le fait qu'elle existe, et donc son déroulement. Et donc les formes existent. Tu vois, on ne peut pas dire que l'être des formes s'oppose à une existence, les formes existent. Donc oui, non, on ne peut pas opposer de cette manière-là essence et existence. Sauf dans des philosophies du XXe siècle, quoi, hein. Voilà, là tu es dans la, par exemple chez Heidegger, ou alors évidemment chez Sartre, mais pas en Grèce, parce que c'est, il y a un seul mot, c'est le mot être. Bon, bah, si tout est clair, à la semaine prochaine.